Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans et un peu ailleurs, si vous voulez, depuis ma foi, bien longtemps. Ce jour, eh bien, nous allons consacrer notre émission au plus français des cinéastes grecs ou au plus grec des cinéastes français. C'est selon Costa Gavras, né le 10 février 1933, et oui, en Arcadie, donc quelque part en Grèce, cinéaste franco-grec, même si quand même plus français que grec, puisque en raison des opinions politiques de son père, qui était à l'époque, dans les années 30, anti-royaliste, eh bien, Costa Gavras est obligé de fuir la Grèce à 19 ans pour pouvoir étudier. Ma foi, le destin réserve parfois des bonnes et des mauvaises surprises, et en l'espèce, il rejoint Paris, s'inscrit en licence de lettres à la Sorbonne, fréquente la Cinémathèque française, bref, quelques hauts lieux de la France culturelle, intellectuelle et cinéphile, qui sans doute, eh bien, lui donne le goût pour le cinéma, qui fait qu'il est au prestigieux, à l'époque, ça s'appelait comme ça, Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC, et qui deviendra ce qu'elle est toujours, d'ailleurs, la FEMIS, la Fondation pour les métiers de l'image et du son, ou quelque chose de ce genre. Ensuite, eh bien, dans les années 60, ça se faisait comme ça. Costa Gavras est d'abord assistant réalisateur auprès de réalisateurs relativement prestigieux comme Henri Verneuil, Jacques Demy, René Clément, ce qui lui donne eh bien, l'occasion de rencontrer plein de gens, et notamment sur le tournage d'un film qui s'appelle Le jour et l'heure, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, Le jour et l'heure, eh bien, elle rencontre rien moins que Simone Signoret et Yves Montand, qui sont évidemment dès cette époque-là très connus, avec lesquels il devient très ami, et c'est grâce à l'entremise de Simone Signoret et d'Yves Montand que Costa Gavras parvient à tourner en 1965 son premier film en tant que réalisateur. Alors, un film policier, pas vraiment dans la veine qu'il explorera par la suite, adapté d'un roman de Sébastien Japrisot, un romancier peu connu maintenant, mais qui fut notamment à l'origine de « Un long dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet, qui est peut-être encore dans vos têtes. Et donc, en 1965, il tourne son premier film. Ça s'appelle « Compartiment tueur ». Je ne sais même pas si je vous l'avais déjà dit. Et on va en écouter un extrait, la musique, un extrait de la bande originale. Décidément, je vais y arriver. Un extrait donc de la bande originale. Elle est signée Michel Magne, « Compartiment tueur » dans 24 notes secondes. L'efficacité de Michel Mann, dont personne n'aura oublié qu'il fut aussi le compositeur des Tontons Flingueurs de Georges Lautner pour la bande originale de Compartiment Tueur, le premier film en tant que réalisateur de Costa Gavras, avec dans les rôles principaux Simone Signoret et Yves Montand, mais autour il y avait vraiment du lourd, si l'on veut, Pierre Mondy, Catherine Allégret, fille de Simone Signoret, comme personne ne l'ignore, Jacques Perrin, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Charles Denner, bref, une distribution de prestige pour un film policier qui lança la carrière de Costa Gavras. Il tourna à nouveau un film policier 2 ans plus tard, ça s'appelait « Un homme de trop », mais c'est en 1969 qu'il connut la gloire, la célébrité en tout cas, avec un film qui eut pourtant beaucoup de mal à monter, même si ses acteurs principaux, Yves Montand au premier rang d'entre eux, étaient avec lui, eh bien, il eut beaucoup de mal à trouver de l'argent pour tourner Z, même si en fait il faudrait prononcer Z, puisque Z, ça veut dire « il est vivant » en grec. Et il faut avoir vu le film pour comprendre de quoi il s'agit. Et en fait, c'est grâce à deux partenaires assez improbables que Costa Gavras réussit à monter, comme l'on dit, le film, en l'espèce Jacques Perrin, le grand Jacques Perrin qui monta une société de production exprès pour tourner le film. Il engagea beaucoup d'argent. Et puis, plus improbable encore, l'Office national du film algérien. Ça existe peut-être encore, mais j'imagine pas que ça ait autant d'argent que maintenant. Et le film finit par se faire que Costa Gavras ne veut pas considérer comme un film politique, mais comme un exposé social. Alors l'histoire de l'assassinat du député incarné par Yves Montand, en tout cas pas député, mais président d'un mouvement contestataire, l'histoire de son assassinat par les forces de l'État qui déguisent le dit assassinat en banal accident de circulation, eh bien cette histoire, elle s'inspire d'une histoire vraie, en l'espèce celle de l'assassinat d'un député grec, Lambrakis, en 1963, mais elle se veut aussi une évocation de beaucoup d'autres crimes politiques, comme ceux des frères Kennedy, de Ben Barka, de Martin Luther King, de Malcolm X, etc., etc. Bref, on embrasse large pour un film qui, à sa sortie, eh bien, ne connut pas, dans sa première semaine d'exploitation, un grand succès. Mais à l'époque, on n'était pas encore au zapping actuel où 3 jours, pas de succès, zop, on passe à autre chose. Le film resta à l'affiche et il le fit bien, puisque ensuite, il y resta pendant 36 semaines de suite et qu'il cumula les prix. Puisqu'il obtint cette année-là, donc en 69 ou 70, je ne sais trop, l'Oscar du meilleur film étranger et même le meilleur montage, ce qui est beaucoup plus rare encore pour un film étranger d'obtenir des prix techniques en tant qu'Oscar. Et il fut gratifié du prix de jury au Festival de Cannes 1969, tandis que Jean-Louis Trintignant, qui interprète dans ce film le rôle d'un juge d'instruction austère mais obstiné, eh bien, obtint quant à lui le prix d'interprétation. Il faut dire que un peu comme Compartiment Tueur, aux côtés de Yves Montand, il y avait une très belle distribution. Irène Papas, Jean-Louis Trintignant, Charles Denner, Georges Géret, Jacques Perrin, c'était bien le moins, François Perrier, Bernard Fresson, ce cher Marcel Bozufi, Bozu, évidemment dans un rôle de méchant, mais on l'aime, on l'adore. Et la musique, eh bien, elle était évidemment signée de Mikis Theodorakis. On n'aurait pas pu imaginer autre chose pour un film si grec dans son esprit, sinon dans son interprétation, comme vous avez pu le voir. Et on va en écouter, j'ai été très bavard, un extrait dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de l'efficace musique signée de Mikis Theodorakis pour Z ou Z, donc le film de Costa Gavras tourné en 1968. Alors, j'ai oublié, mais je n'aurais pas dû, que l'adaptation et les dialogues de ce film sont signés de Jorge Semprin, qui fut un complice accompli de Costa Gavras, et que la photographie en était signée du grand Raoul Coutard, qui fut l'un des directeurs photos préférés de la Nouvelle Vague. Et après, j'espère avoir réparé l'essentiel de mes oublis, que le film est inspiré d'un roman, en l'espèce un roman de Vassili Vassilikos, une œuvre donc qui permit à Costa Gavras de poursuivre dans cette veine politique. On est vraiment dans les années 70, on n'imaginerait pas des films aussi engagés à notre époque. Et l'année suivante, eh bien, Costa Gavras tourna L'aveu, avec à nouveau Yves Montand dans le rôle principal. Cette fois, le film était consacré au procès de Prague, qui s'était tenu en 1952, et d'une manière plus générale, eh bien, au dévoiement du stalinisme, au fait que dans les années 40 et 50, eh bien, beaucoup d'intellectuels, y compris français, n'est-ce pas, Louis Aragon, s'était laissé attraper, si l'on veut, par la dévotion à Staline, et que celle-ci, eh bien, mena certes à la victoire contre l'envahisseur allemand et contre le nazisme, notamment à Stalingrad, mais ensuite, dans les années 50, eh bien, et avant, même dans les années 30, au pire dévoiement possible, avec des procès truqués et, je dirais, une vision très très noire de l'espace politique dans les années 70, à un moment où les affrontements Est-Ouest sont très violents et il faut donc choisir son camp. Et le camp, en gros, eh bien, soit vous êtes pro-américain, puisque nous sommes aussi à l'époque de la guerre du Vietnam, pour tout arranger, donc de droite, soit vous êtes anti-américain, donc de gauche. Mais si vous êtes anti-américain, vous ne pouvez pas non plus être anti-communiste, comme l'était d'une certaine manière l'aveu inspiré là encore d'un roman, celui d'Arthur London. Et enfin, en tout cas dans la trilogie politique de Costa Gavras, eh bien, en 1972, il y eut état de siège, 72-73, selon mes petites fiches, état de siège dont le propos était cette fois de montrer l'influence pernicieuse, c'est un doux euphémisme, de l'Amérique et du gouvernement américain en Amérique latine, manipulant régimes et pays pour éviter justement la contagion aux communistes. Là encore, c'était quand même la grande peur de ces années-là. Et en l'espèce, eh bien, nous sommes quelque part en Amérique latine avec les rebelles Tupamaros qui enlèvent un pseudo-conseiller socialo-culturel d'une œuvre pseudo-caritative, interprétée par Yves Montand, qui en fait se révèle être un agent du FBI et du département d'État, chargé là encore de contrer les mouvements révolutionnaires. Alors c'est un rôle évidemment à contre-emploi pour Yves Montand, un rôle de méchant, mais justement Costa Gavras, avec beaucoup d'habileté, souhaitait éclairer le fait que tout n'est jamais tout blanc ni tout noir, ou à l'époque en tout cas ni tout rouge, ni tout drapeau étoilé, et que donc eh bien, le monde politique est relativement complexe. Le film fut tourné au Chili, quelques temps juste avant l'assassinat du président Allende, évidemment le renversement de son gouvernement pour laisser la place au sinistre Augusto Pinochet. La musique en était signée une fois de plus du fidèle Mikis Theodorakis, et on en écoute un extrait dans 24 notes secondes. Ah ben voilà, une musique très Amérique latine pour un compositeur qui ne l'était pas vraiment. En l'espèce, Mikis Theodorakis, c'est un extrait de la bande originale d'État de siège, un film de Costa Gavras tourné en 1973, donc Z, l'aveu. Et État de siège, c'est une sorte de trilogie politiquement très marquée de Costa Gavras qui, par la suite, tournera des films sinon plus légers, du moins un peu moins lourds, on va dire, politiquement, même si en 1975, Section spéciale qui évoque un épisode peu glorieux du gouvernement de Vichy ne sera pas vraiment un film léger, pas plus, à vrai dire, que Clair de femme, tourné en 1979 avec Yves Montand et Romy Schneider dans les rôles principaux, adaptés d'un roman du même nom de Romain Gary qui se déclara satisfait de l'adaptation de son œuvre à l'écran. C'était la première fois qu'il le faisait, sans doute un bel hommage pour Costa Gavras auquel à cette époque aussi le cinéma américain commença à faire les yeux doux, puisque, le croiriez-vous, on lui proposa notamment de réaliser Le Parrain, qui le fut finalement, comme on le sait, par Francis Ford Coppola. À l'époque, Costa Gavras avait déclaré sic que Le Parrain, c'était un mauvais bouquin. Ma foi, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais par contre, le film, lui, c'est un très très grand film. Et enfin, eh bien, il finira quand même par céder aux sirènes hollywoodiennes, mais il le fera avec un film beaucoup plus dans sa manière, un film tourné en 1982, qui s'appelle « Missing », qui est inspiré d'une histoire vraie, d'un roman, « L'exécution de Charles Orman », lui-même inspiré d'une histoire vraie, en l'espèce celle de la disparition d'un jeune journaliste américain pendant le coup d'État du général Augusto Pinochet en 1973. Tout ça se recoupe et le parcours semble cohérent. Mais ce qui a intéressé Costa Gavras dans cette histoire, ce n'est pas tant d'évoquer ce coup d'État et l'atmosphère qui pouvait régner au Chili à cette époque, mais plutôt le destin d'un homme, le père du jeune journaliste et d'une femme, la femme du jeune journaliste, qui essaie dans un pays en plein chaos bien de retrouver qui leur mari, qui leur fils. Et c'est, ma foi, ce destin-là qui a beaucoup intéressé Costa Gavras et il a trouvé pour cela des interprètes absolument exceptionnels. En l'espèce, Jack Lemmon, qui n'est pas du tout le Jack Lemmon bondissant de certains Lemcho ou de Irma la Douce, mais un acteur tout simplement de grand talent. Et à ses côtés, une actrice qui n'a pas eu la carrière qu'elle méritait. Elle avait commencé plus ou moins avec le Carrie de Brian De Palma, mais ensuite, eh bien, sa carrière ne connut pas des succès comparables, mais Sissy Spacek mérite quand même d'être reconnue. D'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, puisque le film obtint en 1982 le prix d'interprétation pour Jack Lemmon au Festival de Cannes et la Palme d'Or, excusez du peu, et il obtint cette même année, d'une part, l'Oscar du meilleur scénario adapté à Hollywood, c'est-à-dire à adaptation du livre que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis même une nomination à l'Oscar du meilleur film. Quant à la musique, eh bien, elle était signée d'un autre grec, alors pas du tout dans le même genre que Mikis Theodorakis, mais personne n'aura certes oublié Vangelis, qui fut quand même le compositeur de la musique des Chariots de Feu, que vous avez forcément entendu dans une publicité pour tout ce que vous voulez, ou presque, celle du Blade Runner de Ridley Scott, attention, respect, et donc celle du Missing de Costa Gavras, dans 24 notes, seconde. Thank you. Je vous avais prévenu que le gars avait composé la musique des Chariots de Feu, un extrait signé Vangelis de la partition de Missing, un film de Costa Gavras 1982. Il nous reste à peine 2 minutes pour évoquer le reste de la carrière de Costa Gavras. C'est bien dommage, même si elle compte assez peu de films vraiment marquants, il faut le reconnaître. Allez, on va plutôt se quitter en écoutant un extrait d'une autre bande originale, en l'espèce celle d'un film tourné en 1997, ça s'appelait Mad City, là encore un film de la période américaine de Costa Gavras, dans les rôles principaux, excusez du peu, John Travolta et Dustin Hoffman. Ma foi, il y a des distributions moins prestigieuses. Un film qui était une critique des médias et de leur pouvoir. Bref, Costa Gavras restait dans sa veine contestataire. La musique, elle était signée de Thomas Newman. Je ne vais pas l'interrompre. Donc c'est maintenant que je vous dis au revoir. À bientôt. See you. Bye bye.